Bonsoir, bienvenue au Centre Pompidou. Ce soir, la Bibliothèque publique d'information est heureuse de vous présenter le deuxième numéro du cycle Controverse, en partenariat avec l'Atelier des médias de RFI et le concours Fleur d'éloquence de Sorbonne Université. Alors ce soir, nous disséquerons avec vous l'idée reçue « Collecter mes données, je n'ai rien à cacher ». Et je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, à utiliser Twitter. Donc, nous sommes en partenariat avec l'IRI pour un dispositif de tweet polémique dont vous trouverez la grammaire sur l'écran derrière moi. Je laisse la parole à Ziad Malouf qui va vous présenter les invités et détailler le programme de la soirée. Bonne soirée.
Bonsoir. Collecter mes données, je n'ai rien à cacher. Je suis un individu du 21e siècle, mes déplacements, paiements, amis, mails, mes relations, rencontres, voyages, activités professionnelles, mes loisirs, sports, achats, ma santé, mes amis, mes goûts, mes allergies, maladies, mes études, mes lectures, tout cela et des milliers d'autres choses sont gérés, organisés, collectés de manière informatique. Tout cela, que je le sache ou non, que je le veuille ou non, génère des données, chiffres, mots, positions géographiques, dates qui sont rassemblées pour officiellement, en premier lieu, permettre aux outils, systèmes, cartes que j'utilise de fonctionner. Pourrais-je aujourd'hui me passer de ces outils, services, systèmes, cartes qui me permettent d'organiser ma vie ? Puis-je déterminer la manière dont elles ou ils vont exploiter ces données qui me concernent bien entendu, mais qui concernent aussi mes proches, mes amis, mes collègues, les milliers, les millions de personnes avec lesquelles j'interagis ? Quel pouvoir accordons-nous à celles et ceux qui détiennent ces données ? Quel pouvoir peuvent-elles ou ils tirer du recoupement de ces informations ? Nous vivons une époque formidable, vertigineuse, exaltante et effrayante. La controverse de ce soir a pour ambition de contribuer à une meilleure compréhension de cette période. Plus un citoyen est doté de capacités, plus il est difficile d'être un bon citoyen. Nos orateurs Marc Chemin et Éric Sadin vont prendre la parole dans quelques minutes. Avant cela, c'est à Anne-Laure Delaunay du concours Fleur d'éloquence d'introduire à sa manière notre controverse.
Perfecto de cuir, mèche rebelle et mobilette. Il avance en roulant des mécaniques vers des jeunes filles blondes qui le regardent d'un air médusé. Et l'une d'elles lâche à ses copines. Il cultive son mystère. Même scène de séduction banale dans un futur proche. Le garçon avance, sans aucun geste significatif, et regarde la jeune fille. Leur Google Glass leur indique qu'il y a eu dilatation de leur pupille, significative d'une attirance évidente. Mais le croisement de leurs profils les met en garde. Leurs modes de vie ne sont pas compatibles et cela ne vaudrait pas la peine de s'engager dans une telle relation. Et voilà, à l'avenir, les applications seront capables de vous dire si oui ou non cela vaut la peine de vous engager dans une relation. Les données sont effectivement partout aujourd'hui, même en ce qui concerne l'amour, et cela n'est pas nouveau. Elles sont omniprésentes, on cherche à les valoriser, à les monétiser, à créer de la valeur à partir d'elles. Certains voient dans cet état de fait l'idée de pouvoir créer un monde meilleur, un monde où on est capable, avec les données, d'améliorer votre santé, de prédire les séismes, d'empêcher les crimes. Un monde idéal, en somme. Les autres, au contraire, vous prédisent un monde totalitaire, où l'on est totalement sous le contrôle des machines, un monde où on engendre des inégalités en fonction des données que l'on crée. Pourquoi faudrait-il s'inquiéter du fait que l'on cartographie aujourd'hui tous nos faits et gestes, que tout est documenté, qu'on le fait volontairement ? Après tout, quand on a cartographié la planète entière, cela ne nous a pas empêchés de regarder encore les couchers de soleil et les paysages. Pourquoi voudriez-vous que le fait d'avoir des données sur tous nos faits et gestes, tous nos comportements, nous empêche de nous émerveiller encore quand quelqu'un nous fait un sourire ? C'est que on est nourri de cet imaginaire de la science-fiction et en particulier de George Orwell qui nous prédit un monde totalitaire, c'est le monde de Big Brother. Et toutes, on serait surveillé en permanence et notre vie privée serait menacée. Alors cette vie privée, certains disent que finalement, elle n'est qu'un moment dans l'histoire et qu'il n'y a pas tellement à se préoccuper de sa disparition. En réalité, quand on a des attaques terroristes qui nous menacent, pourquoi voulez-vous qu'on s'inquiète dans la mesure où la population n'est pas forcément contre le fait de sacrifier un peu de ses libertés? Il y a les autres qui crient à l'hypocrisie. Vie privée, mais enfin, vous documentez tout ce que vous mangez, tout ce que vous pensez sur les réseaux sociaux. Comment voulez-vous que l'on défende encore l'idée de vie privée? Le problème, c'est que peut-être on ignore exactement ce qui est fait de ces données. C'est un peu une boîte noire mystérieuse. Les données sont disséminées et finalement, le consentement que l'on donne face à la prolifération de ces données est soumis à quelques menaces et certains clament haut et fort qu'il y a déni de démocratie. Et pire encore, les gens pensent qu'il y a peut-être dans cette façon de tout documenter une menace pour l'esprit même humain. On serait en fait des pantins soumis aux algorithmes qui nous soumettent des produits à consommer selon notre profil, qui nous suggèrent des idées selon nos historiques de navigation, qui choisissent les messages Facebook que l'on peut lire et font des expériences sur ce qui nous rend heureux ou non. Ah, mais il y a ceux qui sont plus positifs et qui voient ici l'idée d'être coaché, d'atteindre un potentiel qui n'était pas possible sans l'idée d'être encouragé par des machines. En fait, cela nous permettrait de devenir le meilleur de nous. Albert Camus s'était attristé que les déserts disparaissent en 1939. Il s'était attristé que dans les sociétés de son temps, tout était peuplé par l'histoire et qu'on ne pouvait plus développer son imaginaire. Est-ce qu'aujourd'hui on doit s'inquiéter de la disparition du mystère?
Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il s'agit d'un événement réellement interactif, pas uniquement sur les réseaux sociaux, physiquement interactif, puisque nous votons à deux reprises, en tout cas deux fois dans la soirée. Une première fois maintenant. J'ai toujours du mal à formuler la question. Le titre de l'événement, c'est « Collecter mes données, je n'ai rien à cacher ». Donc, on va procéder de manière très simple. Vous n'avez pas de carton, on ne vous a pas distribué de carton à l'entrée, non? Si? Non. Donc, on va lever la main pour les personnes qui sont d'accord avec cette affirmation ou qui diraient elles-mêmes « Collecter mes données, je n'ai rien à cacher » ou peut-être sans être d'accord, qui en tout cas l'appliquent au quotidien. Voilà. Donc, pour celles qui l'appliquent au quotidien, je vais lever la main. Bon, c'est une petite minorité, c'est ça? On est combien?
La question est quand même...
Tiens, le micro.
Posée assez bizarrement. Comment voulez-vous répondre oui à une telle question de façon... Ça fait preuve manifeste de naïveté de répondre oui à la question ainsi posée, quoi.
Ouais.
Enfin, il me semble...
Alors, je ne sais pas comment il fallait la poser autrement.
Bon, enfin, c'est déposé comme bon, ça,
en tout, l'idée, c'est collecter mes données. Donc, on est une dizaine, soit à accepter cette affirmation de manière très naïve, soit en tout cas à accepter le fait que c'est comme ça que nous agissons au quotidien, c'est-à-dire que nous laissons nos données être collectées au quotidien. Je vais donner la parole d'abord à notre invité de droite, Marc Chemin. Vous êtes... polytechnicien, directeur du planning stratégique de l'entreprise de services numériques Capgemini et coordinateur du plan Big Data. Je ne sais pas comment on traduit en français Big Data. Vous pouvez prendre un micro.
Merci. Mégadonnées.
Mégadonnées, voilà. Du plan Mégadonnées Big Data de la Nouvelle France Industrielle. La Nouvelle France Industrielle, c'est un projet qui est porté par le gouvernement, c'est ça?
C'est ça. C'est un plan qui fait partie d'un ensemble d'initiatives lancées il y a maintenant 2 ans, à l'époque par Arnaud Montebourg et repris depuis par Emmanuel Macron, pour
ministre de l'économie,
pour redonner du souffle, redonner de la dynamique dans l'ensemble des industries françaises.
Et je vous invite à aller à votre pupitre pour votre plaidoyer en faveur des données, donc, hein, de la collecte de données.
C'est le rôle qu'on m'a dévolu, donc je vais essayer de le tenir. Bonsoir, merci d'être avec nous ce soir. Alors, je vais, au cours des quelques minutes qui suivent, défendre la thèse que le big data ou les mégadonnées sont une chance inéluctable. Inéluctable parce que les plateformes des géants du numérique, Google, Amazon, que vous connaissez tous, sont parmi nous. Est une chance parce que nous avons en France, en Europe, des forces, des spécificités dont nous pouvons tirer parti pour mieux orienter notre futur et l'ensemble des services que nous offrent toutes ces nouveautés technologiques sans forcément subir le modèle imposé soit par les Américains, soit, et j'y viendrai plus tard dans l'exposé, peut-être demain par les Chinois. Alors, si on revient quelques années en arrière, première affirmation, le big data, c'est la troisième révolution numérique. Qu'est-ce que ça veut dire ? De 1980 à l'an 2000, on a vu l'avènement de ce qu'on appelait l'informatique d'entreprise. Des entreprises maintenant connues, très établies, Microsoft, IBM, Oracle, qui ont fourni des systèmes très compliqués, très complexes pour améliorer le fonctionnement des entreprises. Et dans le même temps, principalement une entreprise qui a commencé de développer et d'offrir des produits aux consommateurs, qui s'appelle Apple, mais qui était, bien que connue depuis longtemps, qui n'avait pas du tout la même aura ni la même portée qu'aujourd'hui. Entre 2000 et aujourd'hui est venu l'avènement d'un ensemble de phénomènes, le téléphone mobile, l'explosion d'Internet, l'apparition et l'explosion des réseaux sociaux, qui ont vu l'émergence et l'avènement de nouveaux acteurs aujourd'hui très connus, très forts, Google, Amazon, autrefois Yahoo, qui est un petit peu perdu de sa superbe aujourd'hui, et puis les fabricants Apple ou Samsung sont devenus les rois du monde. La période qui s'ouvre devant nous, 2015-2030, sera peut-être celle des mégadonnées, de l'Internet des objets, dont on entend de plus en plus parler aujourd'hui, avec à nouveau de nouveaux acteurs qui pourraient devenir les Google de demain et remplacer les Microsoft et IBM d'hier, à savoir des gens comme la plateforme Uber, aujourd'hui dans les taxis, mais qui demain pourrait être l'opérateur de mobilité présent absolument partout dans le monde, Airbnb, Tesla, le nouveau fabricant de véhicules électriques, SpaceX, fabricant de fusées qui a réduit par 3 les coûts de lancement d'un satellite comparé aux coûts fournis par les fusées Ariane ou les fusées américaines. Pourquoi cela ? Parce que l'avènement des différentes technologies, et je voudrais citer quelques chiffres qui montrent le déluge de données sur lequel se sont construites ces nouvelles plateformes, se sont développées ces nouvelles technologies. 5 milliards de téléphones avec un appareil photo dans le monde. 2 milliards d'internautes. On a mentionné des tweets, 12 terabytes de tweets. Alors tout le monde n'est pas forcément familier avec les unités de mesure de la mémoire, mais c'est absolument colossal. Chaque heure, chaque minute qui passe, les données enflent. Certains aiment à rappeler que tous les 18 mois, on crée autant de données que la somme des données cumulées depuis l'aube des temps jusqu'à la date présente. C'est ça les mégadonnées. Là-dessus, se sont développées un certain nombre de technologies, avant tout par des gens comme Google, comme Facebook, comme Amazon, qui ont eux-mêmes développé des technologies permettant de traiter l'immense quantité de ces données. Ce qui a amené à la disponibilité de nouvelles technologies qui permet la création de nouveaux usages. Et je voudrais vous livrer ma définition du big data, des mégadonnées, puisqu'on entend beaucoup de choses entre beaucoup de données partout, beaucoup de données très différentes. Mais c'est simplement un ensemble de pratiques et de technologies qui permettent d'utiliser les données qui n'existaient pas ou qui étaient présentes auparavant et qu'on ne pouvait pas exploiter. Donc c'est une définition très vaste, mais qu'on va retrouver dans pratiquement tous les secteurs. Je vais y venir dans un instant. Alors, ceci a permis de faire passer, de développer des nouveaux types d'analyses, passant d'une analyse du descriptif, qu'est-ce qui s'est passé, de pourquoi ça s'est passé, ce qui permet d'optimiser le fonctionnement des entreprises ou le fonctionnement des produits ou la qualité des produits offerts aux consommateurs, à un monde prédictif ou prescriptif. Et l'exemple le plus simple à comprendre du prédictif, c'est quand vous achetez un livre sur Amazon et qu'on vous propose immédiatement d'acheter le livre précédent du même auteur ou alors le livre de l'auteur qui est presque pareil. Bien ou mal, on pourra en débattre, mais en tout cas, c'est un fait. C'est un fait, certains aiment, puisque ça les aide à trouver de nouveaux auteurs, de nouveaux achats qu'ils n'auraient pas trouvé autrement. Et en tout cas, c'est déjà parmi nous. Et ce n'est sans doute que le début. Je mentionnais, avant l'ouverture de la séance, à quelqu'un dans la salle, récemment, des chercheurs ont réussi à contourner l'identification individuelle biométrique sur base de l'œil, de l'iris. Et pour bien comprendre ce que ça veut dire, l'identification avec des empreintes digitales, c'est avec 12 points de contrôle. Avec l'œil, c'est 5000. Donc le nombre de combinaisons est bien plus énorme. Et pourtant, on a réussi à contourner ce type d'identification. Donc, quelque part, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite technologique, en tout cas, à ce qu'on peut faire aujourd'hui ou ce qu'on pourra faire très prochainement. Comment se traduit l'ensemble de ces phénomènes? C'est ce que j'appelle l'attaque des anciens par les modernes. C'est l'avènement d'un monde de plateformes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, dans le tourisme, la plateforme Booking.com, qui permet de réserver des chambres d'hôtel et qui est aujourd'hui pratiquement un monopole d'usage. La plateforme Booking.com a 70% de part de marché dans la réservation d'hôtels sur Internet. On connaît Google, sur son presque monopole d'usage sur la recherche sur Internet. En Europe, c'est 90%. Et qui, demain, pourrait remplacer AXA comme assureur. Et puis, c'est aussi des gens déjà établis, mais qui se réinventent en permanence. Des gens comme IBM, qui proposent aujourd'hui de vendre aux compagnies aériennes l'usage des moteurs d'avion, remplaçant ainsi les fabricants eux-mêmes de moteurs, qui continuent de fournir l'équipement, mais qui ne sont plus ceux qui vendent à la compagnie aérienne. Et je voudrais mentionner deux chiffres qui montrent l'accélération et qui, pour moi, appuie ce message du côté inéluctable, à côté duquel il faut réagir, se mettre en mouvement. Le premier, c'est la plateforme Uber, dont on entend beaucoup parler depuis plusieurs mois, dont le chiffre d'affaires estimé est de 10 milliards de dollars pour 2015, ce qui représente 100% du marché des taxis dans le monde. Et le deuxième chiffre, la plateforme Airbnb, qui permet de réserver des appartements ou des maisons de particuliers, c'est 28%, c'est l'équivalent du nombre d'appartements en région parisienne disponibles sur Airbnb comparé au nombre de chambres totales en Île-de-France. 45 000 appartements, il y a 145 000 chambres d'hôtel en Île-de-France. Et ça s'est fait en 2 ans. Et donc l'an prochain, ce sera peut-être 60 000, et puis dans 2 ans, ce sera peut-être 150 000. Alors, et aucun secteur n'est à l'abri. Certains secteurs ont déjà vu cette transformation et quantité d'acteurs ont même disparu. On pense à la musique, la presse, commerce de proximité, le voyage, le tourisme, je l'ai mentionné. Et tous les secteurs sont concernés. L'aéronautique, j'ai mentionné l'exemple des moteurs d'avion. Les assurances, l'automobile, avec des nouveaux modes de consommation de l'automobile qui ont un impact majeur sur la façon dont les constructeurs vendent leurs véhicules. Par exemple, quand on sait qu'à Paris, 55% des habitants n'ont pas de voiture et que l'âge moyen, par ailleurs en France, de l'acheteur d'une voiture est de 54 ans, je crois, et augmente régulièrement. Pourquoi ? Parce que les jeunes n'achètent plus de voiture, parce qu'au lieu d'acheter une voiture, on prend Blablacar pour aller loin et on prend Uber pour aller près. Les banques, l'énergie, les opérateurs de logistique, tous ces gens sont concernés. Voilà pour le côté inéluctable qui amène à la révolution de la relation client, j'ai mentionné ces plateformes, la modification des industries où on avait des silos, qui vendant une voiture, qui vendant un avion, qui vendant un transport par train en des écosystèmes, pour suivant cet exemple de, autour de la mobilité. Et c'est une révolution pour toutes les industries. Néanmoins, c'est peut-être une chance. Pourquoi ? Parce que il y a des spécificités en France, en Europe. Il y a des forces dont on dispose et dont on peut, sur lesquelles on peut faire levier pour faire évoluer les nouveaux services de sorte que ça réponde à la fois au bien, je dirais, au bien-être économique des entreprises, mais aussi des consommateurs. Et en menant trois batailles interconnectées. Celle de la collaboration entre grandes entreprises et startups, ça c'est le côté terreau d'invention et qui est très présent en France, et qui est une vraie force avec beaucoup d'entreprises innovantes qui peuvent apporter des innovations d'usage différentes de celles apportées par les Américains. La collaboration autour des régulations, concrètement ça veut dire incorporer dans les produits, dans les modes de fonctionnement des acteurs économiques, l'approche en France éminemment représentée par l'autorité de la CNIL de l'usage des données plutôt que de laisser libre champ aux acteurs américains dont on ne pourra jamais totalement contrôler les agissements. Et puis troisièmement, former et recruter les spécialistes des données. Et là, c'est une chance en termes d'emploi et de nouveaux types de compétences créées pour lesquels la France a de véritables atouts, puisque dans ce monde des données largement appuyé sur les technologies, sur l'informatique, sur l'algorithmique, la force vient de la confluence de l'informatique et des mathématiques à tous les niveaux, pas simplement des experts qui sont titulaires de trois thèses, mais à tous les niveaux techniques. Et ça, c'est une vraie force depuis longtemps de la France que de former de telles compétences. Et je crois que je vais m'arrêter là.
Merci. Juste une question très très rapidement avant de donner la parole à Eric Sadin qui boue. si, il boue. Une chance inéluctable, il y a quelque chose d'orwellien dans cette formule. Vous avez bien évidemment fait preuve d'enthousiasme. Est-ce que vous assumez quand même le côté orwellien de chance inéluctable ? C'est à la fois très optimiste et un petit peu effrayant comme formule.
Alors, c'est vrai que est-ce qu'on veut demain vivre dans le monde de 1984 ou dans celui de Brésil, qui pourrait aussi être le cas ? Moi, je préfère considérer que on a depuis longtemps eu des auteurs d'anticipation prêchant le malheur à venir et que le monde a toujours été meilleur que ce qu'on craignait. Alors,
je laisse de côté les
événements malheureux du milieu du XXe siècle, évidemment. Mais aujourd'hui, quand on voit le côté inéluctable, je prends l'exemple de Google. Google a 90% de parts de marché dans la recherche, dans l'usage de recherche d'informations sur Internet en France, et 68% aux États-Unis, et 4% en Corée. Donc on voit que le développement est inéluctable puisqu'il s'est produit partout, mais on peut, en agissant sur nos forces, contrer néanmoins ces développements.
Éric Sadin, vous êtes philosophe, écrivain, auteur de nombreux ouvrages qui explorent les nouvelles réalités numériques. Votre dernier livre s'intitule « La vie algorithmique, critique de la raison numérique ». Vous avez la parole, installez-vous.
Bien, merci Ziad, merci
Marc
Chemin. Alors écoutez, je ne pensais pas que c'était sous cette forme du prétoire. Donc moi, j'ai noté quelques petites choses. Surtout que je suis venu à la dernière limite parce que je termine une tribune pour Libération qui va paraître fin de semaine ou la semaine prochaine. Assassine sur la French Tech qu'on nous vante du matin au soir par le gouvernement socialiste qui développe un modèle prédateur sur lequel je vais revenir. Donc, Marc Chemin...
La French Tech, c'est un concept donc, sur la technologie, voilà. Enfin, les jeunes start-up françaises.
Voilà. Marc Chemin, d'entrée, je vous trouve extrêmement sympathique. Je pense que nous allons avoir des relations cordiales. Hein. Mais je dois dire que j'ai entendu là pour la énième fois le discours convenu sur les big data, le modèle industriel d'exploitation des données, la dimension inéluctable qui nous vient depuis une vingtaine, enfin qui est assénée depuis une vingtaine d'années, qui vient de la Silicon Valley, qui est entérinée, qui est d'un point de vue démocratique, citoyen et même civilisationnel inacceptable. C'est aux sociétés d'écrire l'avenir, ce n'est pas à des slogans d'affirmer sous la forme de slogans le cours des choses à venir. Et je voudrais juste signaler, je pensais à ça en marchant, alors voilà, journée de printemps, je suis venu en dernière limite, je habite à rue de Belleville, je suis venu à pied, en marchant, je me dis, tiens, c'est étrange, on me fait intervenir en second. C'est un petit détail, hein. C'est un petit détail. On me fait intervenir en second. C'est un petit détail, je ne veux pas trop extrapoler sur cette chose-là, mais comme si la personne, une fois de plus, je vous trouve extrêmement sympathique, hein, Marc Chemin, ce n'est pas le problème, mais la personne qui est un peu, qui est supposée ici porter la parole d'un certain modèle industriel et d'une pensée ultra-dominante, affirme la chose, et puis à partir de laquelle nous sommes, et moi en premier, supposés me déterminer. Hein, suppose, consciemment ou inconsciemment, l'affirmation d'un modèle à partir duquel on doit réfléchir, se positionner, être critique ou s'opposer. La structure aurait pu être inverse. Hein, c'est-à-dire que j'aurais pu affirmer, moi, des positions critiques ou diamétralement, enfin opposées, j'ai envie de dire divergentes, et en énonçant des critères que je vais évoquer très rapidement, hein, j'ai noté quelques petites choses avant de venir, et à partir duquel vous ou un autre, hein, vous en l'occurrence aujourd'hui, aurez pu essayer de répondre autant que possible à ces critères qui me semblent, moi, extrêmement déterminants dans nos sociétés démocratiques. Donc voilà, je pense que c'est à l'image de ce qui se passe dans nos sociétés, c'est-à-dire une sorte d'imposition de modèles de société fortement guidés par l'industrie, par le monde numérico-industriel, ce que je nomme le technopouvoir de mon dernier bouquin, et puis aux sociétés de se débrouiller. Ce monde numérico-industriel qui est en général, enfin, je ne vais pas tout dire maintenant, je vais probablement conclure sur ça, mais je le dis dès maintenant, se fout de tous les acquis historiques, hein, se fout de tous les acquis historiques, juridiques, éthiques. On ne va pas demander à des ingénieurs ou à des... bien qu'il y ait des discours éthiques dans les industries, on l'a vu avec l'écologie, le mouvement vert depuis une vingtaine d'années. Donc on ne va pas demander à ce monde qui vise prioritairement l'exploitation des données de se soucier de questions qui nous regardent. Hein, qui nous regardent, quand je dis nous, c'est nous en tant que citoyens, nous en tant que société. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez fait à juste titre un petit historique de l'histoire du numérique. Je vais faire un feedback extrêmement rapide, non pas remonter à la fin du 19e siècle, comme je fais souvent ces derniers temps dans quelques émissions de radio, mais de remonter à la fin, au milieu des années 90, où nous étions, avec la généralisation d'Internet, de l'univers, le fait la généralisation aussi des ordinateurs portables, interconnexion, il est apparu ce que le futurologue de plus en plus exalté, je veux parler de Jeremy Rifkin, avait nommé à l'époque l'âge de l'accès. Voilà, l'âge de l'accès nommait ce moment qui rendait possible la possibilité d'avoir, de percevoir, cette lumière est terrible, de percevoir quantité de corpus textuels, iconiques, sonores, de façon extrêmement aisée, de façon généralement gratuite, enfin gratuite, on n'a pas le temps de développer les choses. Et il était normal qu'au milieu des années 90, fin des années 90, une sorte d'enthousiasme mêlé à ce mouvement de capacité pour les individus à avoir accès à cette infinité virtuelle, c'est l'infinité qui est virtuelle, hein, pas l'infinité virtuelle de documents qui rendait possible l'horizontalisation des échanges. Voilà, il y a eu un moment qui a été analysé par plusieurs bouquins d'enthousiasme, hein, d'enthousiasme technologico-numérique, alors que même au même moment, enfin au même moment à peu près, et nous l'avons su beaucoup plus tard, enfin nous l'avons su, non, nous le pressentions, se développait déjà un modèle fondé sur le fait que cette interconnexion supposait indissociablement la dissémination de traces, la récolte par des instances tierces, à l'époque principalement et encore aujourd'hui, mais les acteurs se sont démultipliés, Google, en vue de la connaissance des comportements et l'établissement d'une dimension emblématique de notre contemporanéité relativement au comportement des individus. Je veux parler de cette notion qui est le profilage, hein. Ça a rendu possible le profilage. Alors, ce mouvement que j'avais pu analyser de près au cours du milieu de la première décennie du XXIe siècle, qui a notamment conduit à la publication d'un ouvrage que j'avais publié, je ne vais pas parler de moi là, mais c'est impératif, que j'avais publié en 2009 chez Flammarion, qui s'appelait « Surveillance globale, enquête sur une nouvelle forme de contrôle ». Je parle un peu vite là, parce que je sens que le temps va nous manquer. Et à l'époque, voilà, « Surveillance globale », à l'époque, j'exposais autant que possible la collusion entre le monde numérico-industriel, la collecte de données par les compagnies et la collusion avec la surveillance étatique. À l'époque, on m'a dit, plusieurs personnes m'ont dit qu'elles me trouvaient passablement paranoïaque. En 2013, il y a eu l'affaire Snowden. J'ai été amené à intervenir, à écrire des tribunes ici à droite. On va dire qu'à peu près, bon, je n'avais pas trop dit de bêtises. Hein, sauf qu'on en est déjà loin de ça. Je vais m'expliquer pourquoi. Alors, oui, donc je parlais de l'âge de l'accès. Aujourd'hui, il y a eu l'âge de l'accès qui ne s'est pas atténué, bien au contraire, qui ne cesse de s'amplifier, l'accès à quantité de documents de tous ordres. Il y a eu entre-temps ce qui a été nommé Web 2.0, c'est-à-dire le fait de la possibilité pour les individus de taguer les pages, d'intervenir via des commentaires, et notamment via l'apparition, l'émergence massive des réseaux sociaux et des deux majeurs, Facebook, Twitter, sur lesquels il y aurait tant à dire en termes de flatterie des individus, en termes de modèle industriel, d'interface, hein, quand on parle de neutralité de la technique. Bon, bref, j'avais écrit un texte qui était paru, que m'avait commandé Facebook l'année dernière à l'occasion des 10 ans de la mise en ligne de la plateforme, sur la façon dont la plateforme ne cesse la plateforme ne vise son ergonomie, ses fonctionnalités ne visent qu'à flatter l'individu en vue de s'exprimer continuellement, d'ailleurs exprimez-vous, en vue d'établir la connaissance individualisée des pratiques et en vue de revendre ces données à des instances tierces. Donc le modèle publicitaire fondé sur la connaissance hyper individualisée des personnes, j'ai envie de dire des personnes, des profils, et la revente ininterrompue à des instances tierces. C'est le premier moment de mon intervention, mais là j'ai envie de dire, je parle presque d'un lointain passé, presque, enfin d'un présent, mais déjà d'un âge, comme dirait la chanson, presque révolu. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, 2015, nous entrons exactement aujourd'hui, cette période historique, j'aime pas parler debout, moi, le prétoire, mais bon, je parle debout, c'est comme ça, tu me regardes en souriant, c'est très bien, Ziad, parfois je m'énerve tout seul, ça m'arrive. Ce moment de l'histoire de l'humanité, on peut dire aussi plus précisément de l'histoire de la technique, et encore plus précisément l'histoire du numérique, qui veut que apparaissent massivement et de façon extrêmement rapide quantité de capteurs, d'objets connectés dans nos surfaces du quotidien, hein, et qui visent. Alors dans mon dernier bouquin, je décris une journée type. Enfin, je déconstruis le modèle, je ne détruis pas. J'ai décrit une journée type, hein, d'une personne qui pourrait vivre au présent et on soupçonne qu'elle vivrait, que ce serait son quotidien dans quelques années, hein, qui de sa maison, de son sommeil, la maison connectée, de la balance, jusqu'à la balance connectée, le réfrigérateur, il sort dans la rue, la smart city, les conditions du travail, des capteurs omniprésents, les Google Glass, la reconnaissance faciale, l'effritement du modèle historique de la relation à l'autre, aux quantités de données apparaissent relativement aux individus, cette immondicité. Bon, je vais vous donner quelques exemples avec, de façon extrêmement rapide, je vais essayer de faire le plus concis possible, qui témoignent du fait que déjà par l'interconnexion, par nos gestes de l'interconnexion, c'est-à-dire les navigations et nos conversations téléphoniques et l'accès par nos smartphones, le fait que les objets connectés induisent un saut dans la quantification. Hein. Je pense que nous ne sommes plus précisément dans une dimension de, quoique de surveillance, mais dans une dimension de quantification ininterrompue des gestes de la vie. Alors je prends un exemple, je vais prendre quelques exemples que j'évoque dans mon dernier livre. Le plus emblématique, bien qu'il y en ait d'autres, c'est évidemment le marketing, on en a un peu parlé, hein, c'est-à-dire récolter des données de façon de plus en plus via multisources, hein, c'est plus seulement une navigation internet, c'est évidemment par la géolocalisation, par les pratiques sur les réseaux sociaux. Et qu'en sera-t-il et qu'en est-il déjà quand connaissance du consommateur, des personnes, parce que je viens d'évoquer la maison connectée, la balance, les modes de consommation, le réfrigérateur, Netflix, la télévision connectée, qui aussi, je ne sais plus si c'est Samsung ou un autre, enregistre les conversations et les analyses, hein, chez moi, dans mon domicile. Hein. Les analyses, non pas pour les analyser et pour vous surveiller ou nous surveiller, nous, citoyens coupables, pas du tout pour nous surveiller, simplement pour établir un approfondissement de la connaissance des personnes en vue, en retour, c'est toujours le même schéma, de proposer des services et des produits ajustés à chaque personne, et ce, de façon le plus précisément et continuellement évolutive. Alors, je n'ai pas le temps de développer ça. Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller voir mon dernier opus. La logistique industrielle, c'est très intéressant, les conditions du travail, parce qu'on parle beaucoup des robots qui détruisent les emplois, etc. Très bien, c'est un champ de recherche important. Je crois qu'il faut au moins, autant évoquer les conditions de quantification, de benchmarking, de mesure des performances dans le travail, par l'omniprésence, à terme, des capteurs, hein, qui vise à établir une chaîne de production, enfin, une visibilité de la chaîne de production, de l'origine des sources de production jusqu'à la livraison. Hein. Par exemple, je donne un exemple. Walmart, le géant de la distribution, j'ai plus beaucoup de temps, hein, Ziatu, mais je...
Ouais, après, on va discuter,
ouais,
mais
alors,
je vais aller assez vite.
Walmart, le géant de la distribution américain, voilà, un système qui s'appelle Retailing. C'est très troublant et intéressant de voir ça. Alors ça, c'est l'innovation numérique, hein, c'est par exemple cela. Hein. Tout ça, c'est innovation. Hein. Moi, je parle de prédation numérique. C'est pas, l'innovation, elle n'est pas là pour moi. L'innovation est justement de trouver d'autres modèles, hein, d'autres modèles de civilisation, d'autres modèles de relations entre personnes, d'autres modèles de production du travail. Là encore, les slogans, les discours, y aurait, bon... déconstruire les discours. Bon. Alors, Retailing, je reviens à mon dada. Retailing, qui, en fonction de l'écoulement, vous savez, parce que c'est un système qui analyse les... Enfin, qui, non, pas qui analyse, qui tout simplement quantifie les ventes dans les succursales de Walmart, dans toutes les boutiques Walmart, et qui, en fonction des écoulements et des stocks, passe commande aux sous-traitants les mieux offrants, donc c'est des robots qui communiquent entre eux, hein, les mieux offrants, sans qu'ils échangent, le mieux offrant, et sans qu'il y ait commande par des humains, et qui vont déterminer à la suite des cadences de production en fonction, voilà, il y a le contremaître historique qui disparaît. C'est pareil avec Amazon, ce serait très intéressant d'analyser, je déteste être vous comme ça, d'analyser les circulations dans les entrepôts Amazon en fonction des commandes, qui n'étaient pas le prédictif, hein, Marc Chemin. Moi, j'ai écrit un bouquin, je suis désolé de parler de moi encore, qui en 2011 s'appelait « La société d'anticipation », où j'analysais la dimension anticipative qui gagne les sociétés, hein, c'est-à-dire de vouloir, par des systèmes de plus en plus sophistiqués, essayer d'appréhender ce qui est à venir. Hein. À l'époque, on ne comprenait pas très bien, maintenant on ne parle que de ça. Hein. Évidemment, dans le domaine sécuritaire, il y a des postes de police prédictifs. Hein. Donc, sur Amazon, par exemple, il est intéressant de voir les cadences de production qui sont déterminées, les cadences, les modalités de production, mais aussi de quantification des productions en fonction des objectifs déterminés par des systèmes. C'est ça aussi, l'algorithmisation de la vie. Alors, je vais très, très rapidement donner un autre exemple, la Smart City, hein, collusion, voilà, le grand horizon développé par les maires des grandes métropoles qui ont de moins en moins de projets citoyens de valeur, ou en tous les cas, s'ils n'en ont pas, ils investissent beaucoup par le fait de discours, de technodiscours enjoliveurs menés par les grands puissants du technopouvoir que sont IBM, Microsoft, Cisco. Je n'ai pas le temps de parler de Cisco et ce qui s'est passé avec la France. C'est un scandale. Hein. Peut-être qu'on en reparlera tout à l'heure. Je ne veux pas être trop long. Hein. Donc la Smart City, quantification
non seulement quantification, suivi continu, ininterrompu, via des caméras, des capteurs de présence, des capteurs d'achat, Pass Navigo, c'est l'âge de pierre. Hein. Mais pourquoi cela ? Pourquoi la Smart City ? Et aussi l'open data, ouvrir les données, cet horizon supposé bienvenu. Simplement pour, en retour, c'est ce modèle-là qu'il faut saisir, en retour, transformer toute information en service, en suggestion, personnalisée via le smartphone, via les applications, individualisée, personnalisée à chaque citoyen. Et ce que j'ai dit dans ma longue interview, pour ceux que ça intéresse, on n'a pas beaucoup de temps là dans l'Humanité, qui est paru il y a un mois. Le titre était très bien, je ne me souviens pas que j'avais dit dans le truc, ils l'ont sorti comme titre, c'était parfait. Le technocapitalisme cherche à exploiter chaque séquence de l'existence. C'est ça l'acmé du capitalisme aujourd'hui. Hein, moi, je n'ai rien contre l'industrie, j'en ai contre ce modèle qui vise à instaurer une marchandisation sous des discours de bien-être. Vous savez, la Silicon Valley, ils œuvrent pour le bien-être de l'humanité. Enfin, tout ce discours qu'il faut déconstruire, qu'il faut saisir de près, hein, ce modèle industriel qui vise à non seulement instaurer une quantification, mais une marchandisation intégrale de la vie. Alors, je vais bientôt terminer, Ziad, parce que ouais, je te vois bouger. Je termine. La maison connectée, je n'en parle pas, on en a un peu parlé. Hein, la médecine des données, alors voilà un bon exemple. Hein, ceux qui dénoncent, la bonne conscience, acheter à bas prix, à petit prix. La loi sur le renseignement, hein, évidemment qu'elle est à dénoncer, cette loi sur le renseignement. Mais les bonnes âmes qui ne cessent de s'indigner sur cette loi, hein, qui sont les mêmes, probablement pour nombre d'entre eux, je ne sais pas, mais pour très nombreux, qui courent s'acheter des Apple Watch, qui courir dans les parcs en se quantifiant et en donnant des données sur leur flux physiologique à des instances tierces, des compagnies, en vue de leur proposer des compléments alimentaires ou des séjours, par exemple, promotionnels à la montagne. Hein. Ah oui, alors on reste encore évidemment prisonnier du modèle, du sempiternel modèle étatique et puis un peu oedipien, les pauvres citoyens et le méchant État. Sans saisir que ceux qui sont aux avant-postes, non pas de la surveillance, mais de la connaissance extrêmement approfondie et de plus en plus approfondie et intime, de plus en plus intime, notamment via les objets connectés qu'on porte sur le corps, car de plus en la plupart des objets connectés seront appelés à être disséminés dans notre environnement, mais sur notre corps, hein, qui induisent une connaissance. Et cela est autrement plus marquant et plus grave et plus inquiétant, bien, même s'il faut s'en indigner, même s'il faut s'y opposer, que le projet de loi sur l'enseignement. Je termine, car il faut bien terminer. Par exemple, l'enseignement. Hein, le cours inéluctable, a-t-on dit sur Europe 1, dans un dialogue contradictoire sur les tablettes à l'école, parce que j'avais entendu Hollande, lors de son allocution en novembre, dire qu'à partir de la 5e, dans tous les collèges, on a donné des tablettes à tous les gamins de façon unilatérale, évidemment, de façon, comme disait Steve Jobs, ça c'est un an avant sa mort, à ses équipes marketing, vendez les tablettes dans les collèges, dans les écoles, de façon à marginaliser définitivement l'objet libre, hein, qui est l'objet le plus révolutionnaire actuel. Hein, ce n'est pas l'innovation numérique qui est révolutionnaire, c'est l'objet libre, car il maintient une distance. Il continue d'offrir des moments de réflexion à l'individu. Donc, au-delà, je terminerai sur ça, Ziad, bien que je n'ai pas terminé mon... Au-delà de la question des données, car là, la question des données, je fais référence à cet excellent article de Lordon sur le livre de Piketty qui était paru dans le Monde Diplo l'année dernière, au mois d'avril, je crois. Il parlait de jacatalisme, c'est très très drôle, car aujourd'hui tout le monde est dans le jacatalisme.
Il faut que tu conclues là.
Je conclue sur ça.
Sans digression.
J'aurais encore des choses à dire, mais je conclue sur ça. Hein, sans digression. Le jacatalisme aujourd'hui, ce serait... Hein, ou le michel-sérisme, on a envie de dire, moi, j'ai trouvé ça en marchant, le michel-sérisme, c'est-à-dire nous vivons un monde formidable fait de quantité d'opportunités industrielles, toujours au nom de l'emploi, hein, sans saisir, s'en saisir, que le problème n'est pas tant la question des données sur lesquelles tout le monde parle aujourd'hui. Ce n'est pas tant la question des données que les modes de rationalité à l'œuvre, les modes de rationalité qui sont fondés sur l'objectif historiquement toujours aspiré, hein, toujours ambitionné dans les sociétés européennes depuis au moins le XVIIIe siècle, l'optimisation des sociétés, la fluidification des sociétés, la plus grande sécurisation des sociétés. Or, ce qu'il faut voir, ce n'est pas tant un problème technologique qu'un pattern, j'ai envie de dire, qu'un modèle de rationalisation fondé sur ces trois dimensions, je le répète pour terminer, l'optimisation, la fluidification et la sécurisation de nos existences individuelles et collectives, et qui a rencontré les technologies numériques et qui ces technologies auront rendu possible le stockage par les avancées technologiques, le stockage, le traitement et cette chose très troublante qui est le cœur de notre affaire, la connaissance hyper individualisée, continue, des pratiques individuelles et collectives. Alors vous voyez que quand on parle d'Orwell, où je termine là-dessus, quand on parle d'Orwell, l'écran, il y avait des trous. Hein, il y avait des trous dans le livre. Hein, si on le relit, il y a des trous. Nous allons vers un environnement, notamment par le modèle de l'innovation numérique et le modèle de la French Tech et le modèle de la Silicon Valley, fondé sur la toute-puissance. Hein, fondé sur la toute-puissance. Nous allons vers un monde, si nous entendons qu'il est inéluctable, mais il n'est pas inéluctable, nous allons vers un monde où il n'y aura plus de trous. Donc...
Dernier mot.
Donc, maintenant, j'en arrive au point.
Et c'est ce
que,
non,
et c'est, alors, non, Ziad, je termine. Et non, plutôt faut, que de faire la théorie... Monopolier. Non, mais c'est ce que je vais dire dans ma tribune pour Libération. Maintenant, je pense que l'acte d'achat ou de refus d'achat va être, ça a été déjà le cas un peu pour l'économie verte, mais va être un des actes les plus politiques qui soit. C'est-à-dire de refuser de télécharger certaines applications ou d'acheter des objets, des protocoles qui participent d'une quantification intégrale de la vie. Il est temps que les citoyens, que les individus consommateurs fassent jouer, et c'est exactement ce qui s'est passé avec le cas des Google Glass, alors dont on dit qu'il a été suspendu, non, il est encore en cours, mais qui a fait reculer Google. Je termine là-dessus, je ne veux pas être...
Merci.
Voilà, merci pour votre attention. On n'a pas donné de limite de temps.
Exactement. Mais je suis là pour te donner la limite de temps. Ça fait 10 minutes que je te dis qu'il faut conclure. Mais c'était très intéressant. Nous avons un petit moment de questions-réponses, si vous le souhaitez. Est-ce que quelqu'un lève la main rapidement ou c'est moi qui pose... Oui, il y a Guillaume qui... Ouais. Bah, ça, tu vois, c'est pas juste. Alors, monsieur. Oui. Prenez un micro chacun.
Peut-être que ma question est à côté du sujet, mais qu'en est-il des mutations professionnelles qui s'annoncent justement dans ce monde numérique?
Vous pensez à quoi quand vous dites mutation professionnelle?
Ah bah, tout simplement, les licenciés, enfin, avec les nouvelles techniques,
l'emploi,
il va y avoir besoin de...
L'emploi
de
ou les conditions de travail, c'est ça?
Non, je parle de l'emploi, je parle, si vous voulez, des qualifications des gens qui, du jour au lendemain, ne seront plus dans la norme. Et donc, qu'est-ce qu'on en fait? Enfin...
Très bien. Marc Chemin et puis Éric Sadin, sachant que il y a quelques mois, il y a eu des livres et plusieurs thèses qui ont expliqué que le numérique n'était pas créateur d'emplois, mais qu'au contraire, il était destructeur d'emplois. Il y a eu même un livre qui a été publié sur le sujet, sur l'ancien patron des Skyblogs qui s'appelle Béranger, Pierre Bélanger, qui expliquait donc que le numérique avait détruit et détruisait des emplois. Qu'en est-il?
Alors, en effet... Un certain nombre d'études plus ou moins récentes clament que, à terme, alors le à terme étant sans doute à 10, 15, 20 ans, enfin, c'est jamais très très précis, de l'ordre de 40 à 50% d'un certain nombre d'emplois seraient détruits par le numérique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, dans le domaine de la comptabilité, un certain nombre de tâches aujourd'hui remplies par des individus seraient remplacées par des automatismes, la récupération automatique de données, la concaténation, etc. Alors, sans doute vrai, en tout cas en partie. Maintenant, on a toujours tendance à être relativement précis sur les emplois qui sont supprimés parce qu'on les connaît et donc on sait dire bah celui-là qu'on connaît bien, il va disparaître. Par exemple, maréchal Ferrand, quand il y aura plus de chevaux, ça va disparaître. Mais on est souvent assez mauvais pour anticiper la création d'emplois. Alors, vous dire que les transformations numériques vont plus que remplacer les emplois à hauteur de 10 ou 20%, franchement, je ne sais pas. Simplement,
les projections qui avaient été faites ou qui ont circulé, c'était pour 10 emplois détruits, il y en a 4 qui sont créés.
Oui, moi, honnêtement, j'y crois pas une seconde. Parce que jusqu'à maintenant, les évolutions, et je ne parle pas simplement de technologie, nouvelle technologie, enfin, alors je vais prendre un exemple qui est beaucoup plus ancien, mais pourquoi serait-il différent ? C'est l'avènement de l'automobile. On disait l'automobile, on a supprimé 750 000 emplois hippomobiles, il y a un peu de temps. Aujourd'hui, il y a 2 millions d'employés dans l'industrie automobile. Alors certes, la population française a aussi grosso modo doublé, mais on s'y est quand même globalement retrouvé. Maintenant, au niveau des individus, il est vrai que avec ces, y a un phénomène qui est très important, qui est le raccourcissement des transformations des métiers. Auparavant, on pouvait faire des études et vivre 30 ans, 40 ans sur ce qu'on avait appris, avec des évolutions au cours de carrière, mais grosso modo, on restait sur le même métier. Ça ne sera plus vrai. On est plutôt passé sur des cycles peut-être de 10 à 15 ans. Et d'ailleurs, concomitamment, on observe chez les plus jeunes un changement d'employeur plus fréquent que ce qu'on observait il y a 20, 30, 40 ans.
Ou précarité aussi, ça s'appelle.
Alors, il y a aussi des éléments de précarité, mais d'où l'importance absolument primordiale de la formation continue, de la formation professionnelle, et qui, de mon point de vue en France, appellerait beaucoup de changements.
Mais la question fondamentale qu'on se pose quand même, même si vous êtes optimiste, c'est dans l'hippomobile, le cheval n'a pas retrouvé d'emploi. Et on se demande parfois si le cheval, ça n'est pas nous quand ce sont les machines qui font.
Mais
c'est une vision.
Si l'IBM PC ne retrouve pas d'emploi, on ne va pas s'en plaindre.
Non. Oui, bien sûr, Eric.
Au cours des années 80, il y a eu l'introduction de robots dans nombre d'industries, notamment l'industrie automobile, alors, qui ont remplacé des emplois à forte pénibilité. Et à une époque, alors là, il y a des chiffres, je ne suis pas spécialiste de ça, il y a eu des transferts vers d'autres types de travail.
Des services.
Donc on peut dire que là, il y avait un mouvement historique dont on pouvait dire que ça participait, enfin, pour partie, hein, c'était pas des transferts massifs et automatiques, d'amélioration des conditions de travail et de disparition de tâches pénibles dans certaines industries. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, chez Foxconn en Chine, fait par le Apple avec son image marketing de quasi ange. Hein, évidemment, c'est très intéressant les reportages sur Foxconn, enfin, les conditions de travail.
Donc ça, c'est l'entreprise qui construit les appareils Apple.
Voilà. Mais là, nous parlons d'un type de remplacement de travail par les machines. Or, aujourd'hui, ce sont à terme, alors j'en ai parlé dans mon précédent bouquin, ça, bon, qui s'appelait L'humanité augmentée, car nous renouons aujourd'hui avec le rêve de la cybernétique de créer un double de cerveau humain. Nous y arrivons, sauf que ce n'est pas un double de cerveau humain, ce sont des systèmes extrêmement perfectionnés, extrêmement puissants, qui n'ont pas l'intelligence humaine, mais qui sont capables d'interpréter des situations à des vitesses infiniment supérieures aux nôtres et de suggérer cette notion sur laquelle il y aurait tant à dire, des solutions, quantité de solutions. Alors, ce qui se passe aujourd'hui et à terme, et ça, pour le coup, c'est assez nouveau. Enfin, assez. Non, c'est nouveau. Après, il y a eu des phénomènes un peu similaires, mais ça, c'est extrêmement nouveau, marquant, et ça va poser des quantités de problèmes. C'est le remplacement par des systèmes d'emplois à forte qualification cognitive. Hein. Je donne deux exemples. Watson.
Donc en gros, des emplois de personnes qui ont fait des études,
absolument,
etc. Des emplois
élaborés. Alors, tu as bien fait de m'interrompre parce que je voulais donner un exemple, mais je vais le donner en second, cet exemple. Je vais te donner un autre exemple. Non, je me parle tout seul, là. Cette série excellente, enfin, absolument plus remarquable, suédoise, We Are Human, que vous avez peut-être vue. Vous l'avez vue pour certains ? Oui, bon. Il y a un moment extrêmement troublant, intéressant et qui dit quelque chose, c'est que, alors Mimi, voilà, ce clone, enfin c'est pas vraiment un robot, c'est un, travaille dans un cabinet d'avocats, elle doit trouver un cas de figure, enfin non, dans le cabinet d'avocats, ils doivent trouver un cas de figure, alors ils doivent éplucher quantité de dossiers, qui devraient prendre, et il y a des clients qui doivent arriver, c'est la panique à bord, évidemment, c'est la dramaturgie qui veut ça, mais Mimi, par sa vitesse de processing, a trouvé immédiatement les justes entrées et les justes réponses aux réquisites des clients. Donc ça, ce sont exactement des systèmes qui sont à l'œuvre, notamment, je pense, au système développé par IBM, hein, qui est là, pour le coup, une compagnie qui a su totalement se renouveler, mais selon planète plus intelligente, etc. Là aussi, l'intelligence, il y aurait tant à dire. Hein. Donc, il a développé un système, notamment, hein, mais tout est à l'avenant, enfin, tout, de nombreux systèmes sont à l'avenant, qui s'appelle Watson. Et alors, Watson, comme Watson, hein,
évidemment.
Voilà, qui récolte, alors, c'est un monstre, hein, ce n'est que le début de l'histoire, qui récolte, alors, comment dire, qui récolte quantité d'articles scientifiques qui sont, par exemple, publiés sur Nature, ou mais d'autres aussi, hein, qui récolte des données aussi, je vais faire très vite, relatives aux effets secondaires de certaines pathologies, qui récolte des données relatives à l'apparition de nouvelles pathologies, bon, voilà,
c'est le descendant de celui qui a battu Kasparov aux échecs.
Disons que c'est développé. Ouais, enfin, je ne sais pas si c'est le descendant. C'est développé par IBM et qui donc est un système d'aide diagnostique. Donc, et qui donne des solutions. Hein, qui donne. Moi, je parle. Là, je veux juger ni du bien ni du mal. Hein. Sur la santé, j'ai mon idée. J'en ai parlé dans mon bouquin. C'est-à-dire, on va vers une marchandisation intégrale de la santé. Je m'explique pourquoi. Par la démultiplication des applications, des acteurs qui récoltent des données, qui nous suggèrent en retour quantité de choses, alors qu'ils ne sont pas médecins. Pour terminer, Ziad, ça, ce sont des hautes qualifications. Donc, alors, qui assistent.
Donc, en gros, tu veux dire que tu es inquiet pour les emplois extrêmement qualifiés parce que des machines arrivent. Qui peuvent remplacer quelqu'un d'extrêmement qualifié. En gros, c'est ça.
Pour le coup, je ne vais pas dire inquiet. Je vais juste remarquer, là, avec un peu de distance et presque, que nous sommes arrivés à un moment de l'histoire de l'humanité où, sur quantité de tâches, des systèmes informatiques ont plus de capacité d'analyse et d'interprétation et de suggestion de solutions dont pour certaines qui fonctionnent que l'esprit humain. Je n'en dirai pas plus que cela.
Une main levée, il y avait aussi une question
juste devant.
Alors, juste pour le programme, il est 19h58. Je pense, d'un commun accord, comme nous sommes assez nombreux, on va prendre un petit peu plus de temps que prévu, si ça vous convient. Ça vous convient ? Non, pas. j'ai pas attribué de responsable. Ça vous va ? Oui, si on va jusqu'à 20h30 environ, donc ça veut dire qu'il nous reste à peu près. Si je ne me trompe pas, une vingtaine de minutes de questions-réponses, c'est bien. Et après, on conclura pendant 10 minutes. C'est bien ? Ouais ? Tout le monde est d'accord ? Ok. On votera après. Oui, monsieur. Pardon.
Bonsoir et merci donc pour vos interventions. Je trouve que c'est intéressant. On a parlé au début un peu des potentiels. On a vu derrière les potentiels qu'il y avait des discours sur les potentiels qui n'étaient pas tout à fait la même chose que les potentiels eux-mêmes. On a parlé des modèles, un peu les modèles économiques. On a vu les dérives qu'il y avait derrière. Et ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on a des garde-fous ? Est-ce qu'on connaît des garde-fous aujourd'hui ? Des principes, des règles, des éléments techniques, ça peut être dans tous les domaines, qui nous protègent. Peut-être pas contre toutes les dérives, mais contre les pires dérives. Et si vous aviez à citer ces garde-fous, ma question s'adresse pour le coup vraiment aux deux intervenants. Qu'est-ce que vous mettriez en premier parmi ceux-ci ? Je vous remercie.
Sachant qu'une des difficultés, c'est qu'on parle d'un monde véritablement globalisé, c'est-à-dire que les acteurs sont basés dans toutes sortes de pays, etc. Peut-être qu'on procède de la même manière. Moi, que tu veuilles parler en premier, si
non,
tu
non,
vas
non,
me le reprocher après.
Non,
c'est bon, Marc.
Mais la question est non seulement excellente, mais elle est décisive. Hein,
Je crois qu'elle est décisive et évidemment la réponse va être différente selon les champs d'application. Je dirais, pour faire un peu caricatural, dans le champ du consommateur étendu, pour moi, c'est aujourd'hui la CNIL qui doit être le premier garde-fou, Et c'est le cas. Alors après, il y a beaucoup de choses. On peut débattre de beaucoup de façons d'appliquer le, d'abord du contenu de la loi actuelle que la CNIL, dont la CNIL garantit la bonne exécution.
Donc c'est clair pour tout le monde, la CNIL, oui. Commission nationale informatique liberté, donc une spécificité française.
Pardon.
Une spécificité française à l'origine.
Alors, ce n'est pas une spécificité française, mais la France a été le premier pays à mettre en place une telle autorité.
Dans les années 70.
Et dans toute l'Europe aujourd'hui, il y a une autorité à peu près équivalente, dont je crois une petite moitié est vraiment calquée sur le modèle français. Et la CNIL, d'ailleurs, aujourd'hui, enfin la présidente de la CNIL est présidente de l'association des 29 autorités de défense, des équivalents CNIL dans les autres pays. Donc c'est un modèle assez répandu en Europe. En revanche, il n'existe pas aux États-Unis, par exemple. Deuxième champ d'application dans le monde de la santé, où là c'est à la fois plus critique, plus important, plus compliqué, parce que autant on peut déplorer le partage de données de consommation. Quelque part, c'est pas forcément très grave. Autant quand on touche à la santé, tout de suite, on peut avoir des implications beaucoup plus graves parce que c'est des choses qui peuvent se retrouver sur si on sait que j'ai été malade, je ne suis plus assurable. Enfin, il y a plein de conséquences.
Oui, simplement, et ça c'est votre spécialité. Quand on parle de big data, on parle aussi d'effets secondaires de la collecte des données, c'est-à-dire qu'on va collecter des données sur toutes sortes de choses qui n'ont rien à voir avec la santé, mais on va se rendre compte qu'en mariant toute une série de bases de données, on peut prédire toutes sortes de choses. Donc même les données de consommation peuvent avoir un impact et un effet sur plein d'autres domaines, non ? Enfin, où je me trompe. C'est un peu l'idée du big data aussi, ça, c'est-à-dire de pouvoir prédire toutes sortes de choses à partir de la masse de données collectées.
Oui, mais il y a aujourd'hui un garde-fou par rapport aux données qui sont les données de la CNAM, les données de l'assurance maladie, enfin, que ce soit la CNAM, l'organisme en tant que tel, ou les différents régimes qui opèrent pour son compte. Et là, il y a d'ailleurs un débat en ce moment dans le cadre de la nouvelle loi de santé de quelle utilisation de cette donnée, sachant que c'est un vrai trésor pour améliorer le bien d'un point de vue épidémiologique, d'un point de vue d'études sur le long terme de différentes maladies, et avec un débat qui n'est pas tranché sur, à l'échelle individuelle, comment utiliser différemment ces données. Moi, je voudrais mentionner un troisième champ qui n'est pas lié à l'individu, parce qu'on a beaucoup évoqué effectivement l'impact, l'usage des données personnelles, l'impact sur l'individu, mais dans le monde de l'Internet des objets, il y a évidemment l'Internet des objets qui sont liés à l'individu. Le bracelet connecté, le t-shirt connecté, la lentille qui permet de mesurer le taux de diabète et de remplacer les injections d'insuline, qui sont des choses qui sont en train d'être testées. Mais il y a aussi tout un champ qui va, en termes de nombre de capteurs et d'opportunités économiques, représenter une valeur très importante, qui est dans le monde industriel. Alors, on a mentionné le monde de la chaîne logistique, mais y compris dans l'optimisation des usines et l'optimisation du travail même des robots, où là, il n'y a pas de lien, et je ne vois pas un lien direct qui pourrait se créer entre l'individu, même le travailleur, sauf dans certains cas, et l'utilisation de ces données. Et ça, c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il faut prendre garde au maintien des droits individuels et de la vie privée, mais il faut aussi regarder les opportunités sur l'industrie.
Éric, un mot donc sur cette idée de existe-t-il, cette question, existe-t-il des garde-fous, que ce soit des règlements, des règles, des accords, des limites, etc.
Et un dernier point, il y a des autorités, mais je crois néanmoins que ce qu'a mentionné Éric sur l'acte individuel, potentiellement politique, de refuser de télécharger ou d'acheter, enfin, chacun doit être aussi son garde-fou. On ne doit pas se reposer uniquement sur l'autre pour bénéficier des garde-fous. C'est nécessaire, mais il faut aussi que chacun ait sa responsabilité.
Bon, alors, mon discours a un certain impact, je vois. Hein.
Non, mais j'étais d'accord depuis le début. Mais j'ai
alors,
un rôle.
Alors, Ziad, tu m'as dit, est-ce qu'existe-t-il ? Tu m'as dit, au présent, existe-t-il ? Ouais. Alors, au présent, il n'en existe pas beaucoup, je vais m'expliquer, et c'est dès à présent qu'il faut penser. Alors, je vais m'expliquer. Si on parle de la CNIL, Je pense qu'on... D'abord, il faut relever que ce n'est qu'un organe de préconisation. Hein, ce n'est pas du tout un organe prescripteur. C'était à la gloire de la France à l'époque d'avoir pensé d'instituer un tel organisme. Il y a une sorte de... Alors avant Snowden, on peut dater un peu. Enfin, moi, je me suis un peu amusé à réfléchir à ça il y a quelques temps. Avant, il y avait quelqu'un qui s'appelait Axel Turk, qui était un peu une sorte de vigilance, un peu de... Voilà, de vigilance, de dire certaines choses. Mais bon, voilà, c'est de la vigilance, préconisation. Depuis Snowden, la CNIL, les CNIL européennes sont un peu plus actives. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on va parler du législateur. Parce que la CNIL, c'est un organe de préconisation, un peu d'expertise. Hein, d'expertise, des personnes qualifiées, des juristes, et c'est très bien que ça existe. Là aussi, vous avez parlé des moyens, elles se plaignent constamment qu'il manque de moyens. Et avec les objets de connecter tous les dossiers, toutes les évaluations, je pense que là, il y a une vague extrêmement, extrêmement problématique en termes d'évaluation de tout ce qui est à l'œuvre. Parce qu'on va être dans Philippe Kadic, hein, c'est-à-dire, vous savez, Philippe Kadic dans Ubik, il ne peut pas entrer chez lui s'il ne met pas une pièce dans sa serrure. Hein. Mais à terme, on ne pourra pas entrer chez nous s'il n'y a pas la validation et même utiliser les objets, la voiture, sans la reconnaissance, sans la confirmation que je suis bien supposé être là alors que je suis supposé être ailleurs. Voilà, une connaissance, c'est-à-dire l'utilisation des objets adossée à la connaissance même et à la validation de ce que je suis. Voilà. Vous savez, là, les chantiers juridiques. Alors, je dis chantier juridique, parce que moi, j'ai été plusieurs fois auditionné. Mon Dieu, on est entre nous là, hein, même si je crois. Mon Dieu.
C'est filmé. Ouais.
C'est filmé. Bon, alors très bien, on est citoyen. Hein. J'ai été auditionné à plusieurs reprises, notamment par le Sénat, une commission parlementaire. Sénat, Assemblée nationale, il y a exactement un an au Sénat. C'était très joli, c'est très beau le Sénat. Alors, avec des élus extrêmement polis, cordiaux. Mais alors, et encore, ils étaient responsables de la commission. Mais largués, mais je ne vous dis pas comme ils étaient là. Donc, le législateur. Hein. Donc, non seulement il y a une indifférence, une ignorance, mais j'ai plus dans mon magasin, malheureusement. J'ai dit indifférence. Et tout ça a un peu bougé depuis 2013. Hein. Il faut reconnaître qu'on doit espérer, enfin bon, là encore, on n'a pas le temps, espérer qu'il y a un avant en juin 2013, c'est-à-dire Snowden, toute cette grande affaire, et après, l'Europe bouge un peu. Bon. Mais ignorance, indifférence, mais j'ai beaucoup plus grave. Enfin, déjà, c'est grave. Relativement à des enjeux de société si importants, mais il y a collusion. Il y a collusion. Pourquoi il y a collusion ? Parce qu'il y a, il faut le nommer tel quel, un lobbying numérico-industriel. Je regardais encore les chiffres du lobbying numérico-industriel ce matin, dans un article du Point que vous avez peut-être lu sur Google, qui a fait sa une avec la photo de Sergey Brin.
Hein, un des fondateurs, patron de Google.
Les centaines de millions de dollars investis, alors aussi bien pour le Sénat américain, en France, ce n'est pas tant l'Assemblée, c'est à l'Europe, c'est à Strasbourg, c'est à Bruxelles, c'est même au Luxembourg, là je n'y vais pas, je pensais, mais je ne vais pas vous raconter pourquoi, la Cour européenne de justice. Collusion. Collusion parce que, Marc, je suis désolé, à cause d'une seule chose, collusion. Non pas qu'ils sont corrompus, pas du tout. Ils se soumettent au dictat numérique au nom d'une seule chose. L'argument économique et du sempiternel, croissance et de l'emploi. Hein. Donc, là, ou plus que jamais, il devrait y avoir des bornes politico-juridiques. Et il y a eu délitement. Il y aurait quelques soubresauts, mais il y a eu délitement du politique. Il y aurait quelques soubresauts depuis quelque temps. Mais le monde, le législateur est à la traîne. Alors, puisque le législateur est à la traîne, hein, je termine sur ça, puisque le législateur est à la traîne, puisque le monde numérico-industriel s'arroge un pouvoir de plus en plus important sur nos existences collectives et individuelles, jusqu'à en déterminer la forme de nos existences. Je pense aux conditions du travail, je pense à la maison connectée, je pense à ce que nous avons évoqué tout à l'heure. Et puisque je reprends un concept extrêmement simple, lumineux, de Michel Foucault qui s'intitule la gouvernementabilité. La gouvernementabilité, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la faculté pour cette personne d'agir sur le cours d'existence d'autres personnes. Alors vous comprenez, avec cette définition lumineuse de forme de pouvoir, on voit bien que le monde technico-industriel, numérico-industriel, est doté d'un pouvoir de gouvernementalité sur nos existences individuelles et collectives, qui appelle quoi dans nos sociétés démocratiques ? Qui appelle l'érection de contre-pouvoirs. Alors, puisqu'il n'y a pas suffisamment, à mon sens, et j'en ai des exemples, des contre-pouvoirs, parce que j'ai été aussi auditionné, je termine là-dessus, hein, aussi été auditionné à Bruxelles.
Sois fidèle à ce que tu dis.
Mais j'ai été aussi auditionné à Bruxelles avec des élus de tous les pays, hein, c'était affligeant. Hein. Donc, puisqu'il n'y a pas de contre-pouvoirs suffisants à échelle politico-juridique, c'est aux citoyens. Aux associations de se saisir sous toutes les formes possibles. Et j'en ai pas parlé dans mon bouquin, j'en arrive depuis quelques temps, depuis quelques jours même, à penser, et c'est ce que je disais tout à l'heure, que je vais évoquer dans ma tribune, que je termine. Alors, il y a d'autres, il y a dans l'enseignement, l'apprentissage, l'apprentissage du code, il y a l'érection d'autres modèles, mais il y a aussi l'acte d'achat, et je crois aujourd'hui à la possibilité d'affirmer, et c'est exactement ce qui s'est passé avec les Google Glass, qui était une sorte de, voilà, d'immondice, c'est-à-dire de reconnaître les personnes, entre autres, hein, sans que je vous ai rien demandé, monsieur, je sais plein de choses sur vous. Écoutez, c'est un modèle de civilisation qui ne correspond pas à ce qu'on m'a appris et à l'humanisme européen, et un modèle de civilisation qui me sied. Hein, c'est-à-dire tout savoir, surtout en continu, et sur l'historique des personnes. Et là, il y a eu des effets de refus qui me laisse dire que actuellement, et ça c'est nouveau pour moi dans ma réflexion, je termine Diad, hein, c'est nouveau, que l'acte d'achat ou de refus d'achat ou de téléchargement va être un micro-acte politique avec lequel je peux espérer qu'il va falloir compter à l'avenir.
Merci beaucoup Eric. J'ai vu plusieurs mains se lever. Alors combien de personnes souhaitent poser des questions ? Une, et du coup ça fera deux avec Guillaume devant, et on s'arrêtera là. Merci.
Bonjour. Par rapport à la question de contre-pouvoir sur la question de collecte des données, je suis étonné que personne n'ait parlé de cryptographie, de cryptage des données. J'aurais voulu avoir votre avis à tous les deux sur le sujet.
Très bonne question. Merci beaucoup. Donc, je ne sais jamais quel mot il faut utiliser. Je suis désolé. Chiffrement, c'est ça ? Je ne sais pas si... Ouais. Cryptage, chiffrement. Eric, peut-être ? Ouais.
Oui, certes, mais là encore, c'est une réflexion que je me suis faite récemment. Oui, parce que bon, ça évolue. Enfin, voilà, bon. Doit-on vivre dans un monde quand même ? Oui, évidemment, le cryptographe. Mes camarades de la Quadrature du Net, avec qui je vais faire quelques débats, avec qui j'en ai fait, ne jurent que par ça. Moi, je suis un peu sceptique. Ce sont des modalités, hein, qu'on s'est bien compris, c'est-à-dire d'utiliser des systèmes qui compliquent la lecture, enfin la récolte et l'analyse des données.
Qui, jusqu'à nouvel ordre, la rendent impossible.
Voilà. Nous devons accepter dans un monde de vivre. Je ne vais pas être très long là pour le coup. Je vais m'arrêter là pour ce qui est de cette question.
C'est une question. J'attends de voir.
C'est une réponse ouverte et suspendue que je vais faire. Doit-on accepter de vivre, et une fois encore, est-ce un modèle de civilisation de valeur de vivre dans un monde qui est supposé rendre chacun de nous paranoïaque jusqu'à faire en sorte qu'on évite de parler fort pour que nos voisins ne n'entendent pas le contenu de nos conversations. S'agit-il là d'une parade de fortune, ou s'agit-il là, plus loin, d'observer plus loin et plus largement, que nous entrons dans un monde qui nous oblige à nous penser comme étant rendu à des logiques paranoïaques qui nous conduisent à surprotéger, surchiffrer nos messages, nos achats, nos actes.
Ouais, et juste, non, garde le micro, Eric, parce que tu parles beaucoup du refus de consommer, comme, et tu as parlé de... Ouais, non, mais c'est l'idée de ce qu'on nous propose, c'est pas simplement le refus de consommer quelque chose d'attirant, c'est que on est entouré de services dont beaucoup ont déjà été adoptés par presque tout le monde dans la salle ici, que ce soit le transport, etc. Et arrêter de consommer, refuser, c'est un acte aussi grave et aussi effrayant finalement que ce que dit monsieur. Et toi, tu dis, non, enfin, si on en arrive à devoir crypter ou chiffrer nos communications, dans quel monde vivons-nous ? Arrêter de consommer, c'est aussi grave, parce qu'il ne faut pas dénigrer la consommation. Consommer, ça veut dire utiliser sa carte bleue qui nous trace partout. Ça veut dire arrêter de communiquer, arrêter d'utiliser le mail en grande partie, etc. etc. Enfin, voilà, consommer, ce n'est pas qu'un acte absurde, quoi. C'est aussi vivre, en fait, aujourd'hui.
Évidemment, c'est une question...
Et ça n'est pas qu'un discours attractif, hein. C'est aussi des réalités actuelles. Attractive et des services qu'on utilise au quotidien.
C'est, donc, c'est une question.
Ce que tu préconises, c'est dur aussi.
Non,
hein.
Enfin, c'est une question pertinente que tu poses, Ziad, parce que ce que j'évoquais à grands traits, c'est pas le refus de consommer, hein, c'est le refus d'adhérer à des modèles fondés sur la quantification continue de l'existence. C'est pas la même chose. Or, il se trouve, et ce que tu as un peu souligné en creux dans ta question, c'est que de plus en plus de choses qu'on utilise induisent la quantification. Alors, mais tu sais, vraiment, on commence à devenir de bons amis, Ziad, parce que moi, depuis quelque temps, je n'arrête pas de me dire, après le bouquin que j'ai écrit, comment je peux penser, mais tout simplement mon comportement, hein, de citoyen et d'auteur d'ouvrages critiques, au-delà de la critique, c'est une question que je me pose, c'est-à-dire au-delà de la théorie critique. Hein, je crois que j'en parlais la semaine dernière à Montpellier quand on s'est croisés. Je n'arrête pas actuellement de me poser cette question, de dire voilà, j'écris des bouquins, je formule, et je ne voudrais pas être dans la posture critique, et puis voilà, après, comment je me pose la question de comment ça peut être prolongé par des actes qui pourraient avoir une efficace. Et ces actes qui pourraient... Je vous dis tout, là, je termine. Ces actes qui pourraient avoir une efficace, j'en parle précisément dans la 7e et dernière partie de mon dernier bouquin qui vient de paraître, donc c'est tout. Mais depuis, il s'est passé d'autres choses dans ma réflexion, et je me suis dit, je me suis dit que peut-être pourrais-je aller encore plus loin. Ce que j'évoque là sont des pistes, et je pense que nous sommes dans une situation où il est difficile d'envisager au-delà de pistes, au-delà d'hypothèses, au-delà de, j'ai presque envie de dire, de bricolage d'attitudes possibles, relativement à un monde, oui, vers lequel nous allons, qui va imposer une quantification, une connaissance des comportements sans commune mesure avec ce qu'il y a dans le livre d'Orwell, sans commune mesure, beaucoup plus approfondie, et cela promu par le monde numérico-industriel et tous ces discours enjoliveurs. Donc, là, et en plus, pour terminer avec ce que tu disais, il y a à l'intérieur d'un monde dans lequel nous sommes déjà
inscrits... Ce n'est pas des discours, c'est de la réalité.
Et des comportements à l'intérieur desquels nous sommes déjà... qui constituent en grande partie nos quotidiens. Donc vous voyez, là, ce sont des réflexions et des pistes ouvertes que je signale actuellement.
Marc Chemin, alors oui. Je sais que vous êtes arrivé en disant « je ne m'oppose pas fondamentalement », on dit la vérité, hein, « je ne m'oppose pas fondamentalement aux idées d'Éric Sadin ». En même temps, vous êtes, par votre pratique professionnelle, conseiller d'entreprise. Donc, vous êtes dans un univers où vous avez vous dites beaucoup plus volontiers consommateur que citoyen, ce qui est rare ici, mais c'est intéressant et c'est important parce que c'est aussi une des réalités. Comment vous réagissez donc à cette idée ? Et puis, à cette question qui est quand même une question importante et que Éric se pose d'une certaine manière, peut-être pas avec le chiffrement de ses communications, mais de plus en plus de citoyens comme ce jeune homme, comme moi, comme plein de gens peut-être dans la salle, se disent est-ce qu'il va falloir que j'agisse à un niveau personnel pour reprendre la main sur toute cette collecte et toutes ces informations qui sont collectées. Et il faut le dire, à mon insu et à notre insu, dans beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de situations.
Alors, en fait, je crois que derrière la question cryptage des échanges, il y a trois sous-questions. Il y a la question première de la sécurisation de l'envoi des données, le fait que effectivement, ça puisse pas être capté par n'importe qui sur Internet.
Protection de la vie privée.
Protection. Alors, c'est protection de l'échange, parce que protection de la vie privée, c'est quand on va un peu plus loin. Deuxièmement, par exemple. Deuxièmement, et là on rejoint la protection de la vie privée, est-ce que l'entreprise qui fournit ce cryptage garantit, enfin est-ce que l'entreprise elle-même, si elle le souhaite, peut accéder aux données ? Et là on voit même des différences au sein des Américains. Par exemple, Google, même quand c'est crypté, Google sait accéder à toutes données, parce que les données elles vont aux États-Unis quelque part, et donc potentiellement absolument tout ce qui est échangé avec Google peut être ouvert, lu, reconnu, analysé par Google. C'est pas le cas de tout chez Apple. Dans certains cas, Apple n'a pas la clé de cryptage des échanges ou des achats. Donc il y a des échanges. Et puis troisièmement, la question de l'anonymisation des données dans le cadre d'une analyse de l'utilisation des données. Et alors il y a beaucoup de débats et c'est aussi un sujet qui est très largement, enfin c'est un des sujets favoris par exemple de la CNIL et de ce genre d'autorité, parce que pour autoriser l'usage des données, il y a beaucoup de débats sur anonymiser les données, etc. Alors dans certains cas, c'est pertinent de définir des modes de cryptage, d'anonymisation, mais fondamentalement ça répond pas à la question qui est beaucoup plus large, parce que de toute façon, soit quand on anonymise les données, à un moment donné on doit en fait consolider les échantillons et quelque part on perd la valeur qui est liée à la granulométrie fine des données, soit quel
gros,
que soit les
biais.
Vous voulez
dire par là que quand c'est trop anonymisé, les données en gros elles ont
moins de valeur. Elles perdent de la valeur, et donc à un moment donné, pour avoir toute la valeur en fait on anonymise, mais si on est suffisamment intelligent, c'est vrai,
les données de transport, etc.
Oui, alors ça, c'est vrai.
Par exemple, les données collectives, l'anonymisation a une valeur commerciale.
Ouais.
L'opérateur téléphonique vend des données anonymisées.
Mais dans bien des cas, on pourrait revenir pour réidentifier finalement les individus. Donc,
ça a été d'ailleurs un des débats de la loi, du projet de loi renseignement, où l'État disait les données sont anonymes et des organes de conseil consultatifs leur répondaient non. À partir du moment où on peut retrouver qui est derrière quelque chose, ce ne sont pas des données anonymes. Guillaume, tu voulais poser une question ? Non ? C'est bon, on peut conclure sur les questions. Je crois que c'est à toi la parole, Guillaume. Je ne me trompe pas, hein. J'ai perdu mon fil. Donc, vous savez que le débat a été introduit donc, par un étudiant qui participe au concours Fleur d'éloquence. Guillaume Jaoui a écouté, a pris des notes, a préparé, a discuté, etc. Il nous propose une conclusion qu'il a préparée, qu'il va dire maintenant. Tu étudies en quoi, demande Eric ? En histoire, c'est important.
Eh bien, comment conclure un débat aussi enflammé, aussi tranché, avec deux positions aussi âprement défendues ? Pour ma part, je ne suis ni pour ni contre, bien au contraire, je ne me mouille pas. Tâchons tout d'abord de résumer très brièvement et très simplement, rassurez-vous, ces deux positions. On a eu en somme deux points de vue, un point de vue plutôt économique et industriel, qui voyait un petit peu justement cette entrée vers le numérique, vers le big data, vers les données, les méga-données, comme une chance, une vraie chance, une chance d'une part pour les entreprises, mais pas seulement, certes. Elles s'en servent de ces données pour nous traquer, on pourrait dire, pour faire de l'argent dessus, pour savoir quoi nous vendre. Mais, en somme, ce qui est une chance pour les entreprises peut être vu également comme une chance pour nous, parce que ce qui profite une entreprise finit toujours par profiter aux citoyens. Pensez, par exemple, à la grande révolution industrielle du début du XXe siècle, cette automatisation, la production de masse, les voitures... Tout ça, Ford, au final, ça a profité à tout le monde. Aujourd'hui, tout le monde a accès aux voitures, à l'électroménager, à ce genre de choses. Et puis, on a eu un point de vue plus philosophique, plus éthique, plus moral, qui nous disait, certes, on va vers là, mais il ne faut pas sauter à pieds joints. Il faut se méfier. Il faut craindre peut-être ce changement qui peut être un bouleversement. Mais alors, ce changement est-il vraiment un bouleversement ? Ou est-ce un changement comme les autres ? Je pense qu'il n'y a pas de changement comme les autres. Tout changement un peu important est par nature un bouleversement. Et par nature provoque des réactions. Pensez à quelque chose de simple comme l'imprimerie, l'invention de l'imprimerie. Je pense qu'aujourd'hui, ici, personne n'est contre l'imprimerie. On est tous d'accord pour dire que c'était quelque chose de bien. C'est une vraie question, hein. Si quelqu'un est contre, vous pouvez le dire. Bon, merci. Eh bien, à l'époque où l'imprimerie fut inventée, où elle s'est répandue au milieu du XVIe siècle, eh bien, nous avons vraiment, il y avait vraiment des ligues de clercs, de moines, de prêtres qui ont fait de sévères manifestations pour être contre l'imprimerie, qui disaient d'une part que c'est l'invention du diable, mais bon, enfin, est-ce que c'est vraiment un vrai argument ? Mais aussi que ça allait tuer toute cette culture du livre copié et recopié encore et encore, où chaque moine apportait ses petites notes dans les pages, et qui enrichissait le livre. C'est vrai qu'au final, avec l'imprimerie, maintenant, tout le monde a le même livre. Il n'y a plus de personnification, de personnalisation, pardon, de son ouvrage. Mais alors, ce numérique, est-ce que c'est une chance ? Est-ce que ça va aider l'homme à s'améliorer ? Est-ce qu'on va avoir un humain 2.0 ? Plus performant, harder, better, faster, stronger ? Ou est-ce que ça va nous détruire ? Est-ce que l'homme va se fondre dans le numérique ? Eh bien, les plus anciens d'entre vous se rappelleront que ce débat est en fait un vieux débat. C'est le débat du nucléaire. Est-ce que le nucléaire va aider l'humanité ou est-ce que ça va le détruire ? Eh bien, c'est les deux. Le nucléaire, d'une part, c'est l'arme nucléaire. On a suffisamment d'ogives aujourd'hui pour faire péter la planète, c'est un fait. Mais également, le nucléaire, c'est l'énergie nucléaire. C'est l'électricité pour tout le monde. Et avec l'électricité, tout ce qui fonctionne à l'électricité, mais aussi Internet, et donc l'eau courante, et donc l'éducation, la connaissance. Le nucléaire, comme le numérique, c'est quelque chose qui existe, mais qui n'est rien en soi, qui n'a pas de moralité. C'est à l'homme de s'en servir et de voir ce qu'il va en faire. Mais en fait, l'homme lui-même est comme ça. L'homme lui-même est à la fois destructeur et créateur. C'est Hobbes qui disait que l'homme est un loup pour l'homme. Effectivement, l'homme est la première cause de mortalité de l'homme. Mais, d'un autre côté, Aristote disait, l'homme est un animal politique. L'homme ne peut pas vivre sans les hommes. Je vous invite à aller seul dans la forêt amazonienne. Combien de temps vous survivez ? Combien de temps je survis ? Allez, une heure. On peut pas. On a besoin de l'autre pour se nourrir, pour se protéger, pour le confort. Et puis aussi parce que c'est plaisant, avouerons-le. C'est quand même sympa de se retrouver là ce soir. On se fait chier seul chez soi. Mais alors quoi ? Eh bien oui, ce numérique, c'est ce qu'on en fait. On peut imaginer un monde, pas forcément meilleur, mais un monde plus simple, plus pratique. Un monde où toutes ces petites tâches pénibles du quotidien ne seraient plus un problème. Un monde où on n'aurait pas à s'en soucier des formalités administratives, de ce genre de choses. On pourrait se concentrer sur des choses plus grandes, plus nobles. On pourrait juste penser, vivre, créer. Ou alors, on peut imaginer un monde tel que nous présente la science-fiction, 1984, ou Le meilleur des mondes, Terminator. Un monde dramatique, un monde noir, un monde post-apocalyptique. La vérité, c'est que ces ouvrages de science-fiction, vous le disiez tout à l'heure, sont utiles. Il faut se méfier. Il faut craindre. Car la peur est une bonne chose. La peur est un outil. La peur gonfle les muscles. La peur stimule les réflexes. La peur nous rend plus vigilants. Mais la peur ne doit pas nous paralyser. Il ne faut pas rester assis. Il faut aller vers quelque chose de mieux, quelque chose de différent, mais il faut ne pas sauter à pieds joints. Il faut rester alerte. Voilà.
Alors, il est 20h29, il nous reste à peu près 5 minutes. Il y a une séquence maintenant obligatoire pour voir si les idées de chacune et de chacun ont évolué. Ma formulation de la question, c'était collecter mes données, je n'ai rien à cacher. Qui se reconnaît dans cette formule ? Soit il s'y reconnaît parce qu'il pense ça, soit il se reconnaît parce que c'est de cette manière qu'il agit au quotidien. Je ne sais pas si ça a pu bouger, si ça a pu évoluer. Est-ce que tu as une autre suggestion de question, Eric, puisque tu m'avais dit
là,
que
tu
c'était...
prends un moment de...
Voilà, bon, ok. Donc, on va rester sur cette... est-ce que ça a changé ? Est-ce que votre opinion a changé ? Collecter mes données, je n'ai rien à cacher. Est-ce que vous avez... envie, pour ceux qui n'avaient pas envie ou qui ne se reconnaissaient pas dans cette formule, de vous reconnaître dans cette formule. Est-ce que tu as une suggestion, Guillaume, du coup ?
Je sais pas.
Voilà, je suis aussi démuni que...
Allez,
vas-y.
Non, c'était, enfin, je n'ai pas la question, mais c'était quelque chose en rapport avec la quantification, la mesure de la vie. Hein. mais évidemment elle est trop orientée, c'est-à-dire personne ne veut être mesuré en continu, donc je ne veux pas aller trop orienté. C'est-à-dire, voulons-nous être continuellement quantifié? C'est beaucoup trop orienté, il faudrait mieux que ça, il faudrait plus, à peu près plus neutre que ça.
Voulons-nous être quantifié en permanence, sachant que...
Ouais. Peut-être une proposition pourrait être, alors même si elle est plus partielle, mais si honnêtement, ce serait qui parmi vous a hâte de pouvoir acheter les prochains objets connectés?
C'est pas bête. Très bien.
Ça, c'est pas mal.
Voilà. Finalement, à trois, qui parmi vous a hâte d'acheter les prochains...
Oui. Termine.
Les prochains, d'ailleurs il y en a déjà pas mal, mais les prochains objets connectés, qui parmi vous s'est déjà précipité pour aller acheter l'Apple Watch, comme cette image qu'aime beaucoup Eric Sadin.
Je termine, tout en s'étant fortement offusqué du projet de loi sur le renseignement.
Alors, qui parmi vous? Personne. Bon, ben voilà. Un mot de conclusion, Marc, Eric? J'ai de l'eau à te proposer. Tiens. Ouais.
Non, mais simplement, alors j'avais ouvert mon exposé avec l'expression de chance inéluctable et je me retrouve beaucoup dans certains mots de conclusion, à savoir de ne pas être paralysé par la peur. Parce que dès lors qu'on est je pense, tout au long de l'histoire qu'on a été paralysé par la peur, alors ça peut être la peur de l'imprimerie, ça peut être la peur de l'automobile qui apparaît, on a plutôt été en retard, et c'est pour ça que je mettais en avant le mot de chance, même si inéluctable, si on en fait une chance, ça devient pas forcément inéluctable.
Eric?
Oui, je veux juste rebondir sur l'animal politique, là, Aristote. Hein. Je pense que le vecteur de la peur n'est pas un vecteur intéressant. Hein. Même si pour le nucléaire, la peur, peut-être connaissez-vous le catastrophisme éclairé de Jean-Pierre Dupuis, c'est-à-dire d'écrire, d'annoncer des catastrophes possibles pour mobiliser les consciences, les sociétés. Ça, c'est une stratégie. Je crois tout simplement à la vigilance, à la lucidité, à la critique éclairée, à la valeur d'acquis historique. À la valeur d'acquis historiques qui ne peuvent pas être battus en brèche par l'imaginaire fondé sur la toute-puissance et post-adolescent de la science-fiction tel que celui qui meut les consciences des entrepreneurs de la Silicon Valley. Je peux renvoyer à un entretien de Sergey Brin où il a dit que ce qu'il avait tout le temps mu durant sa jeunesse et son âge adulte, c'est Star Trek. Je veux bien, moi j'adore Star Trek, mais qu'avec sa passion Star Trek, il veuille écrire le cours des choses et veuille écrire le bien-être de l'humanité, ça me pose problème. Donc, je crois à des acquis historiques, pas à la peur, à la veille critique, à la vigilance. Et puisque je reprenais votre affaire d'Aristote et d'animal politique, on a parlé d'objets connectés, l'Apple Watch. Je pense que ce qui nous différencie aujourd'hui, ce qui différencie la période 2015, en gros, de celle de 1995, de la généralisation, de la brusque généralisation de l'Internet au milieu des années 90, et tout ce mouvement extrêmement enthousiaste qui s'en est suivi, c'est qu'on ne peut plus considérer aujourd'hui les technologies, mais quand on dit les technologies, ce sont les systèmes numériques, comme des simples gadgets et des systèmes neutres. Ce sont des protocoles, des systèmes qui interfèrent, qui déterminent de plus en plus, avec des moteurs, hein, des moteurs idéologiques, des moteurs économiques. Hein, ce n'est pas la technique isolée. Et donc, puisqu'on ne doit plus, à mon sens, les considérer comme des simples technologies ou des systèmes, ce ne sont plus des gadgets. Hein, c'est-à-dire, l'Apple Watch, c'est un gadget. On continue à envisager les choses comme étant des gadgets. Ce sont des instruments de détermination, on l'a dit, des sociétés. Donc, ce sont des instruments qui ont une valeur politique. Et donc, je terminerai, moi, ma conclusion en disant, mais sous toute forme possible, hein, sous toute forme possible, que c'est une politisation ou une repolitisation de nos rapports à la technique qu'il faudrait engager Et peut-être même que du côté de l'innovation numérique, il peut y avoir une conscience politique. Mais une politisation, ça suppose de saisir ce qui se joue, d'avoir de la conscience. Et là, j'ai un coup de fatigue. Donc, je terminerai juste en disant que probablement, ça a été le cas à un certain moment de l'histoire, probablement aujourd'hui, devons-nous entrer dans un rapport sous toutes les formes possibles, je le redis, toutes les formes possibles de politisation de nos rapports aux techniques et particulièrement aux technologies numériques.
Merci. Moi, je rebondis sur cette idée, oui, saisir ce qui se joue, comprendre. Et mon expérience, pour conclure, c'est que nous sommes tous extrêmement démunis face à ces réalités, parce que ce sont des réalités extrêmement nouvelles. On tente des comparaisons, comme l'imprimerie, mais qui ne sont pas toujours satisfaisantes, parce que c'est peut-être beaucoup plus complexe comme changement, beaucoup plus profond. Et j'aime beaucoup ton idée, et je pense que moi, c'est une idée que je reprends beaucoup en ce moment, de revers et d'avers de la médaille. Et ça, c'est un petit peu l'optimisme humain qui veut toujours que les choses évoluent dans un sens et oublie qu'en général, quand elles évoluent dans un sens, elles évoluent de manière aussi profonde et de manière aussi massive dans un sens contraire, avec des possibles dans un sens contraire. On l'oublie éternellement parce qu'on est des humains et qu'on est optimiste, mais en fait, c'est une réalité un petit peu éternelle. Merci à tous d'être venus. Ça fait plaisir d'avoir beaucoup de public. Merci pour votre participation. Merci pour vos votes. Merci à toute l'équipe de la BPI, l'équipe éditoriale. Merci aussi à l'équipe technique qui était encore avec nous. Et rendez-vous à la rentrée pour la troisième controverse. Nous ne connaissons pas encore le sujet, mais pour vous informer dessus, vous pouvez suivre la page Facebook, mais non. Vous pouvez. On mettra des tracts à l'entrée de la BPI. Voilà. Merci.